RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, un autre grand sujet à l'actualité lié à l'écologie, ou presque d'ailleurs, c'est le Black Friday. C'était vendredi dernier, un jour où tout est poussé à la surconsommation, à la consommation. Alors, comment est-ce qu'on peut justement essayer de changer nos modes de consommation? On va prendre quelques exemples jusqu'à 11h avec nos invités et puis bien sûr avec vos témoignages dès maintenant au 04 72 38 20 23. Et vous alors, est-ce que vous essayez de changer vos modes de consommation? Essayez-vous de favoriser par exemple la récupération, le réemploi des objets? Avez-vous cette habitude de donner, acheter d'occasion, chiner, recycler? Racontez-nous comment vous faites et venez nous présenter des associations qui proposent tout cela. On vous attend 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 vos messages par mail à direct@rcf.fr et puis toujours dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, on y va.
Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23.
Et on continuera d'agir en direct à 10h55 avec notre chroniqueuse Sabah Ramani, rédactrice en chef adjointe du magazine Keizen, un magazine qui explore les solutions écologiques et sociales. Et ce matin, elle nous parlera du rire et ce sera donc à 10h55. Pour nous accompagner dans cette émission, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Dans un instant, nous rejoindra Diane Skemama, c'est la cofondatrice de Dream Act et membre fondatrice d'un collectif qui s'appelle Green Friday. Elle nous parlera notamment du rapport au Black Friday et pourquoi est-ce que ce collectif dénonce véritablement ce jour, ce vendredi noir. Bonjour Marion Bocahut, pardon.
Bonjour.
C'est bon, j'ai pas écorché votre nom.
Non,
Bocahut. Voilà, faut que je m'entraîne. Merci de nous avoir rejoints en direct sur RCF. Vous êtes la présidente d'une association, les Amis Recycleurs. On va évoquer ensemble aussi la recyclerie. La recyclerie, c'est un tiers-lieu. Est-ce que ça se résume en ce terme?
Oui, tout à fait. On se définit comme un tiers-lieu éco-responsable. Donc, c'est un lieu de vie, une maison de l'écologie pour tous et pour toutes, dans lequel on accueille différents publics, différentes activités, et on sensibilise aux valeurs autour de l'écologie, et notamment à donner des alternatives contre la surconsommation.
Vous faites beaucoup de choses et quand vous dites lieu de vie, je pense que vraiment vous ne vous trompez pas quand vous décrivez la recyclerie. On parlera notamment de tout ce que vous proposez pour les adultes comme pour les plus jeunes. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, comme quoi vous arrivez à faire de l'écologie un sujet absolument intergénérationnel. Un mot, Marion, sur le Black Friday. Alors, c'était vendredi dernier. Quel est votre regard sur ce jour? Alors, je dis ce jour et pourtant, on parlait du Black Friday une semaine avant le vendredi et on en parle encore beaucoup aujourd'hui, notamment sur les sites de commerce.
Oui, bien sûr. Alors, nous, notre regard à la recyclerie sur le Black Friday, il est forcément très critique puisque ce Black Friday, c'est un peu le paroxysme de la société de surconsommation. Et nous, justement, à la recyclerie, soit par les usages que l'on propose au quotidien, soit par les événements que l'on accueille, on essaye vraiment de sensibiliser et de combattre cette surconsommation en donnant des alternatives de consommation plus responsables, plus raisonnées, de seconde main, de réparation, pour trouver des solutions pour justement ne pas tomber dans cette surconsommation. Notre regard, il est très critique.
Ah oui, ça, on peut l'entendre. Et un regard critique également que nous partagera dans quelques minutes. Diane Skemama, elle est en route, je tiens à vous le préciser. Elle vient en studio, mais là, je crois qu'elle doit être un peu bloquée dans les bouchons ou alors dans les transports parisiens. Et ça, c'est souvent en ce moment. La recyclerie, c'est un tiers-lieu qui a été mis en place, c'est ça, par l'association Les Amis Recycleurs.
Alors, l'association Les Amis Recycleurs porte le projet pédagogique de sensibilisation de la recyclerie. Donc, nous, on agit sur trois piliers au sein de la recyclerie, qui est donc un tiers-lieu dans le 18e arrondissement au nord de Paris, implanté dans une ancienne gare de la Petite Ceinture. Donc il faut imaginer un intérieur avec un grand hall qu'on appelle notre salle des pas perdus, dans lequel nous avons un atelier de réparation, dans lequel nous accueillons environ 300 événements éco-responsables par an, et nous avons également un espace extérieur avec une ferme urbaine pour sensibiliser à la place de la nature en ville villes, à la protection de la biodiversité, etc. Donc l'association porte ce projet à la recyclerie, fait également des actions de sensibilisation hors les murs, mais en tout cas l'association gère ses piliers de programmation, d'ateliers de réparation et de ferme urbaine au sein de la recyclerie, qui elle-même fonctionne également avec un café-cantine,
oui.
D'où le côté vraiment tiers-lieu, plusieurs activités et plusieurs publics. La recyclerie est ouverte tous les jours sur une très large amplitude horaire et permet d'accueillir des personnes avec des profils très variés, de 8h du matin à minuit ou 2h pour les plus festifs.
Et c'est très convivial, hein, on peut l'entendre aussi, cette recyclerie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Marion, le terme éco-responsabilité ?
Alors, on parle évidemment de l'éco pour écologie et de responsabilité pour réfléchir à ce que chacun, chacune, à titre individuel mais aussi plus collectif, peut faire pour agir pour une société plus raisonnée, plus responsable, plus durable. Et donc, très concrètement, nous, on propose des actions. Je vous parlais de notre atelier de réparation. C'est donc un petit atelier à l'entrée de la recyclerie qui propose de réparer au lieu d'acheter et de partager. Réparer au lieu de jeter et partager au lieu d'acheter. Donc là, on répond vraiment à une problématique de comment justement lutter contre la surconsommation de petits appareils d'électroménager qui sont voués à tomber en panne au bout de quelques mois. Nous, on va proposer une activité de réparation de petits électroménagers et on va également proposer une objet-tech. Donc on va très concrètement pouvoir prêter à la fois des outils mais aussi des objets. Un appareil à raclette, des appareils en fait qu'on utilise très peu mais qu'on est bien content d'avoir quand on en a besoin. Quand vous êtes adhérent de l'association, vous pouvez emprunter ces objets ou ces outils pendant 48 heures. Donc ça, c'est une alternative très concrète à ne pas consommer ou ne pas jeter quand il est possible de réparer. Et puis ensuite, à travers notre, quand on parle de lieux éco-responsables, on aborde en fait cette éco-responsabilité au quotidien, tout au long de la journée, avec différentes activités. On accueille, je le disais, de nombreux événements qui ont des formats très variés. On va avoir des rencontres, des conférences, des ateliers, mais également des marchés. On a notamment nos éco-villages de Noël qui arrivent là à partir du week-end prochain. Donc on a 3 week-ends de rencontres avec des où on accueille des organisateurs et des structures qui sont engagées. Et là, typiquement, on donne une alternative aussi très concrète pour des fêtes de fin d'année responsables, pour acheter des cadeaux de seconde main, pour soutenir des producteurs, des petits artisans qui sont engagés sur ces valeurs du Made in France, de la seconde main, de l'artisanat. Donc on a 3 éco-villages à partir de ce week-end. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et puis, dans tous les piliers que l'on propose, je pense par exemple à la ferme urbaine, on va proposer à la vente le miel de la recyclerie par exemple. Ça, c'est une super alternative comme cadeau produit très localement et qui permet un peu de varier. On produit également des plants dans notre ferme urbaine, donc on peut acheter des plants à la recyclerie. C'est de 3 à 5 euros et on peut avoir des plants tout au long de l'année. Donc ça, c'est aussi une manière de montrer ce qu'il est possible de faire en alternative.
Et Marion, quand on dit changer nos modes de consommation, est-ce que tout le monde peut le faire ?
Oui, tout le monde peut le faire à des niveaux différents, en y allant petit à petit selon son engagement, selon sa disponibilité. Mais il y a plein de pas plus ou moins grands à faire qui ont un impact. Et nous, justement, on est là pour accompagner toutes les personnes qui ne sont absolument pas sensibilisées, qui débutent, qui ont vraiment besoin d'accompagnement pour aller petit à petit vers le zéro déchet, vers une alimentation plus végétarienne, vers des alternatives de réemploi, de récupération, de seconde main. Donc on les accompagne à travers ce que l'on propose à la recyclerie, mais aussi en les accueillant dans des événements. Voilà, justement, venir à nos éco-villages de Noël, bah, c'est découvrir ces créateurs ou ces créatrices. Venir manger à la recyclerie un jeudi ou un vendredi quand tout est végétarien, et bah, c'est découvrir ce qu'il est possible de faire pour une alimentation plus végétarienne. Donc on accompagne ces personnes qui ont besoin du premier coup de pouce et on accompagne aussi les personnes qui sont déjà un petit peu engagées ou beaucoup engagés et qui ont envie d'aller plus loin. Donc on essaye vraiment de s'adresser à tout le monde, mais la réponse est oui, on peut tout le monde peut faire des éco-gestes.
Il y a de quoi faire, en tout cas, on l'entend à cette recyclerie. Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Dites-nous comment vous essayez de changer vos habitudes de consommation. Est-ce que ça passe par la récup, le réemploi des objets? Est-ce que vous avez l'habitude de donner, d'acheter d'occasion, de chiner, de recycler? Bref, racontez-nous comment vous faites pour lutter d'une certaine manière contre ce fameux Black Friday et plus généralement contre la surconsommation. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. On a Pascaline qui vient nous rejoindre. Bonjour Pascaline.
Bonjour.
On vous écoute Pascaline.
Oui, bonjour. Mais moi je voulais faire juste la promotion d'un magasin qui se trouve à Chambray-les-Tours, qui s'appelle Troc. Et comme son nom l'indique, c'est du troc. C'est-à-dire que ce sont des personnes généralement qui déménagent, qui laissent des meubles, des très bons meubles d'ailleurs. Tout est en bon état, avec parfois des petits défauts, mais qui sont vraiment très bien. Et puis il y a aussi des livres, toutes sortes de choses. Et voilà, donc c'est vraiment un bon magasin pour justement récupérer des objets utilisés qui sont en très bon état. Mmh. Et sinon, je pensais à cette application à Vinted. Il n'y a pas longtemps, je faisais du tri et je me dis... Est-ce que Vinted, c'est vraiment l'idéal quand on voit le nombre de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements? Et finalement, je me dis, non, ce n'est pas sur Vinted que j'irai, ce serait plutôt sur Secours Catholique ou Emmaüs. Mmh. Parce que, voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas les moyens. Même si c'est moins cher sur Vinted, je trouve ça finalement moins charitable, en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Pascaline. Voilà de bonnes idées à prendre dans Je pense donc j'agis ce matin. Marion Bocahu, alors le troc, ça se développe énormément depuis très longtemps. C'est comme l'occasion, en fait, le troc.
Alors, la particularité du l'occasion. Troc, c'est qu'il n'y a pas d'échange monétaire. Ça, c'est hyper chouette, en effet, pour échanger des objets, mais aussi des compétences, des savoir-faire. Donc, vous avez, en effet, nous, on accueille des trocs parties à la recyclerie. Vous avez plein d'endroits partout en France qui accueillent ce genre d'événement. Il y a aussi des applications, j'en ai pas forcément en tête, mais qui mettent en relation des personnes souvent très localisées sur des quartiers, sur des voisinages, donc ça peut être très chouette. Et en effet, la seconde main, la récupération, vous avez aujourd'hui pas mal d'endroits, de sites internet et d'endroits physiques, et je rejoins la personne qui témoignait sur Vinted.
Oui. Aujourd'hui, c'est une fausse bonne idée, non?
Alors, en fait, je pense que c'est comme tout, il faut le prendre, tout dépend de comment vous l'utilisez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le biais un petit peu négatif de Vinted, c'est que si les personnes vendent sur Vinted pour derrière toujours plus de surconsommation sur de la fast fashion, ça perd son intérêt. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'utilisation de Vinted fait baisser les dons justement auprès d'Emmaüs, auprès du Secours Populaire. Donc il faut aussi privilégier les dons sur ces enseignes-là.
Bonjour Diane Skemama.
Bonjour.
Merci, ça y est, de nous avoir rejoints en studio pour cette émission. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Dream Act et membre fondatrice d'un collectif qui s'appelle Green Friday. Alors ça fait écho très logiquement au Black Friday. Pourquoi vous, à travers ce collectif, vous dénoncez la surconsommation et donc le Black Friday?
Alors en effet, les membres fondateurs du Green Friday, dont Dream Act, Envie, Le Réfère, Altermondi et Emmaüs France, on a tous, tout au long de l'année, une mission de combattre finalement la surconsommation et de promouvoir des alternatives encore trop peu connues de consommation locale, artisanale et responsable. Et on s'est réunis, pas tout seul d'ailleurs, maintenant il y a un peu plus de 600 structures adhérentes partout en France et en Belgique, pour dénoncer ce qui est pour nous un des symboles de la surconsommation, qu'est le Black Friday. Ouais. Et notre rôle du coup, c'est de sensibiliser les citoyens à l'impact que peut avoir notre consommation, nos choix de consommation, au pouvoir qu'on a aussi entre les mains en décidant de ne pas acheter ou d'acheter un produit plutôt qu'un autre. Et au-delà de cette sensibilisation, notre rôle, c'est vraiment de promouvoir et de donner un coup de projecteur sur ces alternatives plus responsables de seconde main ou de consommation neuve, mais qui promeut et préserve des emplois locaux, des matières upcyclées, recyclées, voilà.
Diane Skemama, je vous présente Marion Bocahu qui nous accompagne jusqu'à 11h. Vous êtes toutes les deux pour nous parler de ce sujet. Marion qui est la présidente d'une association qui s'appelle Les Amis Recycleurs. On entendait il y a quelques instants, alors vous ne l'avez pas entendu Diane, hein, c'était Pascaline qui est venue à l'antenne au 04 72 38 20 23 qui nous parlait notamment du troc, aussi des dons au Secours Catholique, à Emmaüs, les dons de vêtements ou d'objets. Et puis elle nous parlait de Vinted. Alors ça c'est un vrai sujet. Et on se disait il y a quelques instants avec Marion que Vinted, c'était peut-être une fausse bonne idée parce que évidemment c'est la seconde main. Alors ça a son importance, mais ça peut réduire d'ailleurs les dons aux associations, les dons de vêtements notamment.
Exactement. Alors j'entendais quand même ce que Marion disait et je suis tout à fait d'accord avec elle. Et j'ajouterais qu'il y a peut-être deux problèmes en plus de tout ça, ou même trois. C'est qu'à mon sens, ça vient finalement empirer un phénomène qu'on connaît tous depuis plusieurs années. Le premier, c'est le fait de s'être déshabitué du prix juste. En fait, on ne sait plus du tout combien coûte quelque chose. On ne sait plus que derrière un jean, bah, y a des êtres humains, il y a des matières, il y a du... Voilà, ça va de la petite graine de coton jusqu'à un tissage, une filature, etc. Et ça, Vinted, bah, voilà, concrètement, on met un jean à 5 euros, on nous le négocie à 2 euros, quoi. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de s'interroger sur ce qui se cache derrière le prix d'un produit et accepter finalement d'acheter moins, mais d'acheter mieux à un prix qui vient rémunérer justement la filière, parce que derrière, voilà, il y a des êtres humains à rémunérer tout simplement. Ça, c'est le premier problème à mon sens. Le deuxième, c'est qu'en effet, du coup, on ne change pas ses habitudes, on ne change pas finalement le modèle de société dans lequel on est et qui est complètement fou, qui consiste à vouloir quelque chose et l'acheter plutôt qu'à vraiment se poser la question de son utilité et de son vrai besoin. On a tous dans nos placards environ 115 euros de vêtements non portés. À quoi ça sert de continuer à acheter même à petit prix sur Vinted? Et le troisième problème, c'est un problème qu'on voit partout hein, dans la vente en ligne, mais c'est...
Je crois savoir. La spéculation? Non, peut-être.
Ah oui. la spéculation, non. Alors, c'est vrai que ça pourrait être un problème, mais oui. C'est ce nombre de colis qui circulent. Alors, certes, souvent, c'est dans des relais, mais souvent dans des relais un peu reculés où les gens prennent leur voiture pour aller chercher leur colis. C'est pas neutre en fait, un envoi postal. Et ça, c'est important de le rappeler quand même.
Et la spéculation, Marion Bocahu, c'est vrai que sur Vinted, chacun peut mettre son prix. Et apparemment, alors ça ce sont des études hein, bien sûr, beaucoup d'utilisateurs spéculeraient pour gagner plus. Voilà, loin de toute préoccupation écologique bien sûr.
Je n'avais pas connaissance de cet autre problème de Vinted, mais en tout cas, je rejoins tout à fait Diane sur les constats de ce que ça peut entraîner et sur en effet reprendre un peu conscience de tout ce qu'il y a derrière un achat. C'est important.
Ouais. On a une auditrice, Émilie, qui nous a envoyé un mail il y a quelques minutes à direct@rcf.fr et qui nous dit « Sans être une grande couturière, je trouve qu'il n'est vraiment pas très compliqué de réparer un trou dans un collant épais ou recoudre un bouton, par exemple, sans avoir à jeter et à racheter du bon vieux raccommodage en somme. » D'ailleurs, Marion Bocahu, si je ne me trompe pas, à la recyclerie, vous proposez beaucoup d'ateliers « do it yourself hein, » comme on l'appelle, pour inviter chacun à avoir un peu l'idée de bricoler quelque chose, voilà, de recoudre.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des événements qu'on accueille sur ce format atelier. Parce que en effet, c'est pas très compliqué. Il n'empêche que quand on l'a jamais fait, ça peut être un petit peu impressionnant de se servir d'une aiguille, d'un fil, d'avoir des petites techniques, de voir aussi comment vous parliez là d'un trou, etc. On peut transformer en fait ce trou et cette réparation en quelque chose d'un petit peu upcyclé, upgradé avec une petite broderie ou avec on peut imaginer des choses. Donc en effet, nous on accueille des personnes qui peuvent accompagner les citoyens et citoyennes qui ont envie d'apprendre ça sur la partie couture, sur la partie réparation de vêtements, sur la partie aussi initiation au bricolage, parce que c'est pareil, bricoler des choses, réparer des choses soi-même, c'est pas très compliqué, mais si on s'est jamais servi d'une perceuse, ça peut être un peu impressionnant. Donc voilà, nous on prend des planches, des vis et puis on s'entraîne pour pouvoir reprendre un petit peu l'usage de ses mains et développer une aisance là-dessus.
Diane Skemama, pour le collectif Green Friday, vous organisez beaucoup de choses, alors que ce soit autour du Black Friday, mais même d'ailleurs toute l'année, hein, pour, comme vous dites sur votre site internet, contre la course à la consommation kamikaze. Voilà, alors à voir ce qu'on met derrière ce mot, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, peut-être, Diane, de projets que vous avez pu mettre en place, qui vont parler, j'imagine, à nos auditrices et auditeurs qui ont beaucoup d'idées aussi à partager avec nous au 04 72 38 20 23.
Alors en effet, le but du Green Friday, c'est de prendre le contre-pied du Black Friday. Donc déjà le jour qui s'est transformé en mois entier pour le Black Friday, mais bon, le jour censé être du Black Friday, les structures adhérentes ne proposent bien sûr pas de réduction, puisque de toute façon elles pratiquent des prix justes toute l'année et ne pourraient pas se permettre ce type de promo. Mais elles reversent d'une part 10% de leur chiffre d'affaires du jour à une association qui lutte contre les pollutions plastiques et les déchets et contre l'obsolescence programmée. Et par ailleurs, elles incitent non pas à acheter, mais plutôt à se sensibiliser, à faire soi-même, à réparer. Donc, en effet, le jour du Black Friday, il y a des ateliers un peu partout en France. On a notamment le réseau des ressourceries d'Île-de-France qui organisait dans plusieurs d'entre elles des ateliers dédiés ou dans des boutiques Altermondi, des ateliers de sensibilisation à ce qui se cache derrière la mode éthique ou comment consommer mieux ces produits textiles. Et puis au-delà du coup de cette journée, en effet, on organise différents ateliers. On avait pu organiser par exemple une projection en avant-première du film documentaire Made in Bangladesh, en compagnie du coup de la réalisatrice qui est super, pour montrer aussi que derrière les produits de fast fashion se cachent des êtres humains et que la réponse souvent n'est pas forcément la réponse adéquate n'est pas la raison la plus simple. Typiquement sur des produits textiles made in Bangladesh, on pourrait se dire boycottons, refusons toute étiquette made in Bangladesh, mais en fait ce serait laisser sur le carreau de nombreuses travailleuses textiles. Donc c'est vraiment notre rôle, ça, de pousser les citoyens à s'interroger sur ce qu'est une consommation responsable, raisonnée. Et d'ailleurs, là, on lance la distribution d'une BD sur le sujet, spécialement réalisée du coup pour le Green Friday.
Et alors, ça fonctionne? Est-ce que le public est conscient de la nécessité, peut-être de l'urgence aussi, à changer notre mode de consommation?
Je sais jamais trop répondre à cette question. Est-ce que je prends ma casquette optimiste ou pessimiste?
Les deux.
Je pense que à l'image un petit peu des résultats d'un sondage mené par Harris Interactive là pour la Maïf et le Green Friday cette année là auprès de 1500 Français, on voit que alors qu'une majorité des Français, une petite majorité, 55%, répondait vouloir participer au Black Friday cette année encore, trois quarts pourtant des répondants disaient qu'ils avaient bien conscience que le Black Friday n'était pas le moyen de faire des bonnes affaires, avaient bien conscience que en fait c'était beaucoup de fausses promos et une grande opération commerciale qui nous pousse à acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin. Donc je dirais qu'en fait les citoyens sont de plus en plus sensibles à l'aspect environnemental, local des produits. Ils ont conscience en fait qu'on les mène en bateau, mais il y a de nouvelles. Enfin voilà, on est tous le nez dans le guidon. On n'a pas le temps d'être des consommateurs à plein temps. On a peur pour notre pouvoir d'achat. Et puis finalement, c'est tellement omniprésent ces promos, ces sirènes de la surconsommation que on s'y laisse tenter.
Ouais. Une question de Solange. Est-ce qu'on peut considérer que Le Bon Coin est une grande ressourcerie, Marion Bocahut?
Oui. On peut considérer ça. Alors après, c'est comme tout, hein. Vous parliez de spéculation. J'imagine qu'il y a des gens qui font de la spéculation sur Le Bon Coin aussi. En fait, il faut pouvoir faire un peu le tri, ou en tout cas y aller pour les bonnes raisons. Mais Le Bon Coin, c'est un super moyen, en tout cas un super réflexe de j'ai besoin de quelque chose. Et je pense vraiment que la notion de besoin, elle est fondamentale comme première question à se poser sur est-ce que j'en ai envie, est-ce qu'on me donne envie d'en avoir envie, ou est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et une fois que le besoin est vérifié, Le Bon Coin, c'est un super moyen de en effet, d'avoir des solutions de seconde main. Et il y a absolument tout sur Le Bon Coin, partout en France. Donc c'est vrai que il y a plein de ressourceries, d'endroits qui vendent des boutiques qui vendent de la seconde main, mais on n'en a pas toujours près de chez soi. Par contre, franchement, on a souvent la solution Le Bon Coin près de chez soi.
Et qu'est-ce que c'est une ressourcerie, justement, pour bien l'expliquer à nos auditrices auditeurs?
Alors, une ressourcerie, ça va être un endroit qui reçoit des dons et qui va vendre. Alors, vous avez des ressourceries qui ont des spécificités en termes de caractéristiques, mais la plupart du temps, les ressourceries vendent un petit peu de tout, des vêtements, des livres, du petit mobilier, plein de choses autour de la puériculture, plein de choses, et vont revendre ça du coup à plus petit prix parce que ça a été donné, mais souvent ça fait, enfin voilà, c'est justement les prix de vente font vivre la ressourcerie, les personnes qui y travaillent, même si il y a souvent beaucoup de bénévoles, mais on est vraiment dans un cycle justement de remise en circuit d'objets, vêtements, etc. que les personnes donnent et qui sont revendus en ressourcerie.
Voilà pour cette définition de la ressourcerie. On va se retrouver dans un instant, Marion et Diane. On va faire une petite pause dans Je pense donc j'agis. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner. On accueillera Richard d'ailleurs dans quelques minutes. Dites-nous comment vous changez vos modes de consommation. Comment vous avez fait? Est-ce que vous favorisez la récup? Est-ce que vous allez dans des ressourceries, des recycleries? Racontez-nous comment vous faites au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Ne t'en va pas si tu m'aimes. Reste encore un peu. Reste encore un peu. Je te kidnappe, je t'enlève. Mon amour, on fera du feu. Du feu de nous deux. Rien ne nous presse dehors. Il fait trop gris et trop froid. C'est l'inverse de ton cœur. C'est l'inverse de mes bras. Dans tes yeux, ça crie encore. C'est pas tout dit, je crois. Voilà un mot du docteur. Reste là qu'on se pose. Y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, nos peines on les dépose. Et on met le monde en stop. Y'a rien qui nous retient. On remet à demain ce qu'aujourd'hui est de trop. Après le soleil, oublie les heures, les rendez-vous. Y'a plus rien d'autre qui vaut la peine. Y'a plus rien autour. Mon amour, après quoi on court? Quand tout est là devant nous. Quand y'a plus besoin de discours. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. De nos vies accélérées, on fera les plus beaux ralentis. On prendra le temps de se reposer. Pour composer avec la vie. Si dans tes yeux ça crie encore, c'est qu'on s'est pas tout dit, je crois. Voilà un maudit docteur. Reste là qu'on se pose. Y'a rien qui nous impose. Tout ce que je te propose, nos peines on les dépose.
Pause, c'était Malo. Allez, fin de la pause sur RCF, on reprend du service.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et toujours avec vous, Diane Skemama, vous êtes la cofondatrice de Dream Act et membre fondatrice du collectif Green Friday, et Marion Bocahu, présidente de l'association Les Amis Recycleurs. Richard nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Richard qui va revenir puisqu'il vient de se garer sur le bord de la route. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des mails hein, à l'adresse direct@rcf.fr pour nous dire comment vous changez vos mode de consommation. Diane Skemama, pour vous, il y a urgence à changer nos modes de consommation?
Oui, je peux pas dire le contraire. C'est sûr que cette année, on a eu mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle en termes d'impact environnemental. Et je dirais que ça encore, tant mieux, on commence à en parler un petit peu. Je pense qu'il y a aussi des aspects sociaux et sociétaux dont on parle moins et dont notre consommation est responsable clairement sur des personnes laissées impayées, exploitées. Les suicides d'exploitants agricoles indiens dans l'industrie du coton, c'est une vraie réalité. Hein. Ça fait déjà plusieurs décennies que ça dure. Et le problème est partout, à l'autre bout de la planète, comme chez nous. Il n'y a jamais eu autant de faillites cette année, de petites marques engagées françaises. Nous, on l'a vu, hein, on a quasi un quart de plus de défauts de marques parmi nos marques partenaires. Ouais. Voilà, c'est important de prendre conscience que c'est nous qui avons un rôle à jouer et une
pouvoir.
Responsabilité. Mmh. On a vraiment un pouvoir derrière nos choix de consommation.
Richard, on a retrouvé Richard, bonjour.
Bonjour.
Bah alors, vous me faites une frayeur?
Non, pas du tout. Non, mais c'est à l'est du Loiret, il y a un réseau qui est précieux.
Ça peut se comprendre. Allez, Richard, allez-y, on vous écoute.
Je commence par quoi? Oui, alors, ce que je racontais là, c'est que j'étais encadrant technique dans deux ressourceries. Et puis après, j'ai changé de métier, en fait, je suis devenu prof. Et il y a 3 ans, après ça, j'ai créé une ressourcerie vélo dans la ville où j'habitais. Et il y a 3 ans, avec une amie, on a vu qu'il y avait un groupe Facebook qui existait dans notre ville, qui permettait d'échanger, en fait, de donner des objets dont on voulait plus. Et puis, ça nous a, on a rencontré les gens qui étaient à l'origine du Facebook, et avec eux, on a monté une ressourcerie. Je vais dire le nom de la ville, comme ça va faire de la pub, puis je dirai aux copains que je suis passé à la radio, ce sera cool. Ça s'appelle Sully-sur-Loire, et donc on s'est aperçu qu'il y avait une ancienne hall de fret qui était inutilisée, et on s'est dit pourquoi pas la remettre en service pour créer une ressourcerie. Comme ça, on recrée du patrimoine, et on permet aux personnes qui habitent la ville et les alentours de venir chercher des objets et d'en donner aussi.
Voilà, mais c'est une super idée.
Oui. Et non, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, les ressourceries, alors il y a 20 ans en arrière, c'était Emmaüs et c'était dans les grandes villes, et que de plus en plus, on en trouve dans les campagnes. Et l'exemple, je l'ai vécu samedi dernier, je suis allé à Sancerre, et sur la route, là, dans un village qui s'appelle Saint-Trange, il y a un espèce de petit bibui, un petit local, et il y a des gens qui ont créé une ressourcerie qui existe depuis un petit moment, d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui est bien avec ce mouvement des ressourceries, là, qui clairement le vent en poupe, c'est que on peut créer sa ressourcerie assez facilement, et puis plus forcément dans les grandes villes, quoi. Parce que ça intéresse aussi les ruraux, qui ont besoin, et puis je dirais que ça marche peut-être mieux en termes de d'objets, dans le sens où on sait très bien qu'il y a plus d'espace en milieu rural, et que quand on vide une maison, eh bien il y a forcément plus de quantité d'objets que quand on vide un appartement en ville.
C'est une bonne analyse, ça. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous au 04 72 38 20 23. On vous laisse reprendre la route, hein. Voilà, sur la route. Et vous continuez de nous écouter, bien sûr, dans Je pense, donc j'agis. Marion Bocahu, c'est très intéressant ce que nous a raconté Richard sur à la fois le développement des ressourceries.
Ouais, ouais, carrément. Et cet aspect très local et rural. Et aussi hyper important, mais c'est vrai que Richard a raison sur la certaine simplicité, en tout cas, de monter une ressourcerie. Et surtout, ce que je retiens du témoignage, qui est intéressant, c'est les rencontres et les groupes qui se montent assez facilement de personnes qui ont un peu les mêmes valeurs, un peu les envies, et il peut se créer en effet ce genre de choses assez facilement. Et ça répond à des besoins. À la fois en termes de dons, de vente de seconde main, de création aussi d'emplois, de liens que peut faire en effet la commune pour réhabiliter des endroits qui sont vides. Donc ça fait vraiment sens.
On a reçu un message de Jacques tout à l'heure. Il nous disait « J'ai connu un incident en publiant une annonce sur Le Bon Coin pour donner une roue électrique de vélo à venir récupérer sur place. J'ai été insulté par un candidat acquéreur furieux de ne pas pouvoir se la faire expédier. J'ai compris que certains passent leur temps à traquer les annonces de dons sur tout le territoire pour revendre ensuite les objets acquis à bas coût, mais ça reste un excellent système. » Ben voilà, comme quoi aussi on trouve des défauts, même sur Le Bon Coin. Une question de François. François qui nous dit « Quelle est la différence entre une ressourcerie et Emmaüs, Marion Bocahu ?»
Alors, la différence première, c'est l'appartenance au réseau Emmaüs et sur les personnes qui y travaillent. Le réseau Emmaüs, il y a vraiment tout un accompagnement très social des compagnons Emmaüs qui travaillent, récupèrent, font le tri, font la vente, sont accompagnés sur ces activités. Une ressourcerie, et je ne suis pas spécialiste, hein, donc Diane, n'hésite pas si je dis des bêtises, mais peut se monter par des personnes, par n'importe qui, entre guillemets, alors que Emmaüs,
c'est
vraiment sur ce réseau et sur les compagnons qui, du coup, sont vraiment dans un système de réinsertion à travers Emmaüs.
Diane, si vous voulez compléter.
Non, c'est très juste. Après, il y a aussi cette notion de souvent dans les ressourceries d'insertion qui se retrouve également. Mais tu le disais, Marion, c'est aussi une super solution pour recréer du lien sur des territoires et de l'emploi.
Et ça, on en a besoin, hein, dans les zones rurales. Mais c'est intéressant ce que nous disait Richard, comme quoi, voilà, dans les milieux ruraux, il y avait de quoi, en tout cas, en monter des ressourceries, des recycleries, Marion.
Ouais, carrément. Bah, tous les territoires ont des endroits inoccupés, des personnes qui ont ce projet, qui ont du temps, qui cherchent en effet à retrouver une activité et un emploi. Et puis on a tous besoin de donner des choses. Il y a aussi une certaine facilité en fait à donner plutôt que de revendre, etc. Et si en fait on facilite justement cet accès un peu à la seconde main, au don, au troc, en fait on a cet aspect financier du coup qui est résolu aussi, parce que si on donne mais qu'on achète à petit prix de seconde main, qu'on troque, qu'on partage, qu'on échange, non seulement ça a des vertus environnementales, sociales, de recréer du lien, etc., mais ça a des vertus aussi financières. Au final, la seconde main, ça coûte quand même vachement moins cher.
Alors aussi, Chlorie, vous l'avez dit tout à l'heure, Marion, vous organisez beaucoup de choses, à la fois pour les adultes et pour les plus jeunes. Ça aussi, c'est l'importance, hein, de sensibiliser les plus jeunes à l'éco-responsabilité et plus généralement à l'écologie. Vous avez mis en place, un peu comme dans un Repair Café, tout ça, un système de réparation.
Oui, dans l'atelier de réparation qui est vraiment à l'entrée de la recyclerie. On va réparer. Donc c'est aussi l'endroit où on partage des outils, des objets. C'est aussi l'endroit où on apprend à bricoler, où on vient bricoler. On peut bénéficier en fait d'un établi, des outils quand on a un projet d'étagère sur mesure à faire et qu'on ne peut pas le faire dans son petit appartement parisien, par exemple. Et on a Mouloud, qui est notre réparateur, qui, lui, va se concentrer pour réparer du petit électroménager uniquement. Donc, voilà, de par ses compétences, l'espace dont on dispose, on n'est absolument pas sur le gros électroménager. On se limite à beaucoup d'appareils de la cuisine, des grille-pains, des petits robots ménagers, etc. Beaucoup de machines à café qui ont très souvent besoin d'être réparées et qui sont très compliquées à réparer. Donc c'est aussi pour nous non seulement l'occasion de réparer ce qui est réparable pour ne pas jeter et racheter, mais aussi de sensibiliser à travers cette réparation à repenser la manière de s'équiper. Et par exemple, une machine à café à dosette, ça n'a aucun sens. Donc on va accompagner les personnes sur des alternatives de pouvoir avoir une machine à café filtre ou à percolateur, mais qu'en tout cas, non seulement les dosettes créent du déchet, et en plus vraiment ces machines-là qu'on répare tout le temps. Donc ça permet de réparer, mais aussi de pouvoir accompagner et sensibiliser sur ces sujets-là.
Vous faites comme Pascaline et Richard, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous donner de bonnes idées pour changer nos modes de consommation. Diane Skemama, si on revient au Black Friday, et vous, c'est le collectif, c'est le Green Friday, mais le Black Friday, ça ne vient pas de France, hein, on est bien d'accord. Est-ce que vous savez si, à l'étranger, il y a une prise de conscience également sur ce Black Friday et que finalement, des Green Friday arrivent un peu partout dans le monde?
Alors, en effet, le Black Friday vient des États-Unis initialement. Pour la petite histoire, en fait, les commerçants écrivaient à l'encre noire sur leur petit carnet. Ils tenaient leur compte, quoi, sur un petit carnet à l'encre noire.
Oui.
Et le jour du Black Friday, à l'encre rouge, pardon, et le jour du Black Friday, les comptes commençaient à être rentables. Et c'est pour ça qu'ils se mettaient à écrire en noir. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le Black Friday. Ça a été importé en Europe par les géants du e-commerce, hein, qui ont commencé à faire ça aussi ici. On voit en effet des mouvements un peu contestataires un peu partout dans le monde. Nous, on s'est plutôt alliés, on a allié nos forces avec des acteurs belges et européens. Donc le Green Friday aujourd'hui, c'est un collectif qui dépasse un peu les frontières. Voilà. Ouais. Mais en effet, partout, la prise de conscience est là, mais partout avec la même ambivalence en réalité.
La même ambivalence, vous dites, pourquoi ?
La même prise de conscience et en même temps une certaine consommation à petit prix sur des produits pas forcément de qualité, qu'on retrouve en effet tout le temps cassés derrière. Voilà, il y a vraiment les deux mouvements qui coïncident en réalité en ce moment. Et d'ailleurs, on le voit, y avait un chiffre qui nous avait interpellés, nous, dans le rapport de l'étude Harris, là. Quasi 30% des répondants disaient vouloir participer et au Black Friday et au Green Friday. Alors qu'on pourrait croire qu'il y a une petite incompatibilité, mais en fait, c'est bien le symbole un petit peu de cette ambivalence actuelle, je pense.
On a une réaction de Françoise qui habite à Lyon et qui nous a laissé un message au 04 72 38 20 23. Elle nous dit « C'est bien beau de dire que les gens ne devraient pas consommer, mais tous ceux qui fabriquent des bijoux, des sacs à main n'auraient plus de travail. La consommation apporte le travail avant tout. » Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Bocahut, de ce témoignage de Françoise?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des alternatives pour trouver de l'emploi dans des filières de production raisonnées, en fait. Pour moi, c'est pas tant un sujet. Après, je sais pas exactement de quelle filière. Est-ce qu'elle parle plutôt des petits artisans? Enfin, je sais pas exactement de quelle filière on parle ici, mais. Le travail, en tout cas, peut être cette notion de travail peut être décalée sur de la production raisonnée, responsable. Pour moi, le sujet, il n'est pas là.
Bon, Françoise, elle ne veut pas passer à l'antenne et c'est dommage, ça aurait été intéressant d'en parler, hein, tout simplement, dans Je pense, donc j'agis. Mais Marion, Diane, pardon, je me trompe dans vos prénoms ce matin, c'est terrible. Françoise nous dit la consommation apporte le travail. C'est une vérité de la palisse, hein, ce qu'elle nous dit, Françoise. C'est pas pour autant que il ne faut pas changer nos modes de consommation, Diane.
Oui, en effet, la consommation apporte le travail, mais où et dans quelles conditions ? Aujourd'hui, que ce soit, l'approche de Noël, un secteur donc auquel on va être confronté, le jouet, le doudou. 2% des doudous qu'on consomme en France sont fabriqués en France. En gros, tous ces secteurs hyper manufacturiers, donc dans lesquels il y a besoin de la main humaine, quoi. Le textile, les jeux pour enfants. En gros, c'est plus de 70% dans le textile qui vient d'Asie. Donc, ça crée pas de l'emploi ici en France, malheureusement. Et ça crée pas non plus des produits qui vont durer dans le temps et pouvoir se retrouver très longtemps dans les réseaux de seconde main ensuite. Parce qu'en fait, la consommation neuve doit être aussi pensée pour que ce soit des produits réparables qui tiennent dans le temps, et c'est la seule condition pour qu'après on puisse avoir une seconde main qui tourne bien. Moi je dis pas du tout, et d'ailleurs aucun membre du Green Friday ne le dit, on ne dit pas de ne plus consommer.
Personne n'a dit ça d'ailleurs, hein, ce matin, je tiens à préciser, ouais. ni vous Diane, ni vous Marion.
Exactement, je pense que vraiment c'est important, mais par contre c'est important de consommer moins. Ce qui nous permet du coup de consommer mieux des produits qui vont vraiment être bénéfiques pour des emplois locaux, bien payés, des matières responsables, et d'allier consommation neuve qui crée ces emplois et consommation de seconde main qui en crée d'autres, en fait, en réalité. Mais les deux doivent aller de pair, j'en suis persuadée.
Ouais, Marion, vous êtes d'accord également ?
Oui, tout à fait.
Quel conseil on peut donner à nos auditrices et auditeurs à l'approche de Noël, à l'approche des cadeaux à faire, à acheter, bien sûr, ou à chiner, peut-être, pour celles et ceux qui préfèrent. Marion, qu'est-ce qu'on, avec l'expérience que vous avez, vous, à la recyclerie et aux amis recycleurs, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ce matin ?
Alors déjà, pour les Parisiens et Parisiennes, je peux donner le conseil de venir à nos 3 prochains éco-villages de Noël pour à la fois passer un bon moment et justement trouver des alternatives, soit de seconde main, soit vraiment made in France, pour des cadeaux sur des thématiques variées. Et après, de manière générale, en effet, là, il peut y avoir, ça peut être déjà réduire les cadeaux par des systèmes de tirage au sort, etc., pour en fait ne pas faire tant de cadeaux, on croule tous sur trop de cadeaux. On peut aussi se donner un petit défi de dire, bah, en fait, les cadeaux cette année, ce sera que de la seconde main. Et en fait, il y a de la seconde main dans à peu près tout. Donc, ça peut être... Il y a peu de cadeaux qu'on ne peut pas faire en seconde main. En tout cas, là, j'en vois pas. Il peut y avoir aussi des choses faites soi-même, et en fait on n'a pas besoin d'être forcément hyper manuel, il y a plein d'alternatives pour faire des cadeaux soi-même, pour offrir aussi des expériences plutôt que vraiment des objets de consommation. Au final, souvent ça fait plus plaisir de partager un moment culturel ou autre avec quelqu'un de son entourage qu'un énième objet dont on ne sait pas forcément si on a besoin, etc. Il y a plein d'alternatives, et en tout cas les fêtes de fin d'année sont une super approche pour repenser son moyen de consommer, que ce soit dans les cadeaux, dans les décorations, dans les repas de Noël. Il y a vraiment plein d'idées.
Et vous, peut-être, Diane Skimama, de bons conseils ?
Je suis d'accord avec Marion. Je rajouterais peut-être que, en effet, pour vivre une vraie magie de Noël, c'est aussi intéressant de pouvoir raconter l'histoire des produits qu'on offre. Et pour ça, il faut la connaître, il faut la choisir, et du coup choisir des cadeaux qui ont de belles histoires également. C'est important et c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, il y a un peu plus, enfin, il y a énormément de marques engagées françaises qui ont fait faillite cette année. Beaucoup ne tiendront clairement pas la fin d'année sans notre soutien. Et donc, je pense que si si cadeau neuf il doit y avoir, cadeau neuf est utile. Vraiment privilégier ces petites marques engagées qui enfin, dont on a besoin d'elles pour ces emplois et ces nouvelles filières, et elles ont besoin de nous pour survivre, quoi.
Simone nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Simone.
Oui, bonjour. Je voulais vous dire, moi je suis militante du revenu universel, et donc le principe c'est qu'il faut absolument que l'homme travaille moins, qu'on produise moins, donc on polluera moins. Et alors, le revenu universel, c'est que tout le monde, inconditionnellement, ont ce qu'il faut pour les besoins primaires. Et donc, après, l'homme pourra choisir son travail et non plus devenir esclave du travail.
Eh bien, merci
voilà,
beaucoup.
En gros, c'est ça. Et il faut bien retenir, pour moi, qu'il faut qu'on travaille moins.
Pour produire moins, vous dites, hein, et donc consommer moins, c'est ça ?
Voilà, ouais. Voilà.
Mais merci beaucoup, Simone, d'être venue à l'antenne, et voilà, ça nous donne un peu de matière. Alors, on n'est pas là pour débattre du revenu universel. Est-ce que
Non, mais c'est du travail.
Ouais, voilà, le travail, et ça fait écho au témoignage de Françoise qu'on a eu tout à l'heure, hein, alors qu'il ne voulait pas passer à l'antenne, malheureusement. Diane Skemama, vous en pensez quoi ?
Je suis assez d'accord. Ce serait génial d'avoir un revenu universel qui permette à tout le monde de partir sur un pied d'égalité et d'avoir peut-être plus de temps pour s'interroger sur ce qui se cache derrière ce qu'on consomme, que ce soit dans l'alimentaire, dans le produit de tous les jours.
Diane et Marion, je me perds, c'est terrible ce matin. Diane et Marion, on arrive presque à la fin de cette émission. On va tout de suite rire un petit peu, ça va nous faire du bien avec notre chroniqueuse. Et oui, nous retrouvons Sabah Ramani, rédactrice en chef adjointe du magazine Kaizen, qui explore des solutions écologiques et sociales. Bonjour Sabah. Sabah Ramani, est-ce que vous êtes...
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Ah, on vous entend bien. Je crois que ce matin, vous avez envie de nous parler du rire.
Oui, vous m'entendez ? Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Oui. Il y a un petit décalage.
Oui, Melchior, oui. Parce que lorsque l'actualité est plutôt maussade... Ah, vous m'entendez ?
On vous entend, Sabah.
Est-ce que vous m'entendez, Melchior ? Oui. Donc, je vous disais, Melchior, qu'avec l'actualité qui est plutôt maussade et que le temps devient plus grisâtre, notre humeur a parfois vite fait de suivre le mouvement. Donc, pour ne pas tomber dans la morosité, rien de tel que le rire pour nous redonner de l'énergie. Car si on sait que le rire a des bienfaits psychologiques et sociaux, évidemment, le grand public connaît moins ses vertus pour le corps. Donc, malheureusement, moi, je n'ai pas le talent des humoristes, donc je ne pourrais pas vous faire rire durant cette chronique, mais j'ai envie de vous en vanter les vertus. Donc, parce que côté social, psychologique, on rit d'absurde, de la satire, du politique, de soi et des autres, à travers des situations cocasses, des scènes ou des sketchs, sur un ton bon enfant ou plus caustique. Du domaine privé au domaine public, le rire a sa part dans les débats. Il peut toucher notamment des sujets tabous ou faire évoluer des questions de société, pardon. Et plus sérieusement, le rire s'est aussi invité dans les couloirs de certains hôpitaux, pas seulement pour les enfants avec les célèbres clowns médecins, mais aussi pour les adultes avec des séances de yoga du rire.
Alors, qu'est-ce que c'est, Sabah, le yoga du rire ?
Eh bien, c'est une pratique de bien-être développée par un médecin indien qui s'appelle Madan Kataria en 1995 et qui combine des exercices de rire, d'étirement, de relaxation, de respiration en pratique au yoga. Elle se pratique aussi auprès du grand public, comme d'autres disciplines qu'on appelle la rigologie. Et ces techniques du tour de rire fleurissent en France depuis une quinzaine d'années avec un club en France et ce qu'on appelle plus de 15 000 rieurs.
Mais attention, alors, ces techniques... Sabah Ramani, on va essayer de vous retrouver, parce que là, on a une voix de Daft Punk quand on vous entend. Ce que Sabah essaye nous dire, c'est que dans ces techniques, il n'est pas forcément question de se raconter des blagues, mais de pratiquer des exercices corporels et respiratoires. On s'échauffe en se frottant le corps et en pratiquant des respirations abdominales. Puis, on attaque des séries d'exercices où l'on provoque la mécanique du rire, hein, comme des ha ha ha, oh oh haut, enfin de manière accentuée ou en jouant avec son voisin. Alors c'est peut-être artificiel, eh bien c'est ce qui est étonnant, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire forcé et un rire naturel. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, les rires simulés deviennent des rires naturels jusqu'à parfois devenir des fous rires contagieux. Ce relâchement total permet d'atteindre une détente musculaire et mentale profonde. Sabah Ramani, on vous a retrouvé. Alors, j'ai continué à votre place, mais on en est à la science du rire. Hein.
Oui, oui, exactement. La science du rire qu'on appelle gélotologie et qui a montré que lors d'un rire prolongé, le cerveau libère des endorphines et augmente le taux de sérotonine, ces fameuses hormones du bonheur, hein, aux propriétés qui calmantes, antidouleurs et qui diminuent le stress et l'anxiété et qui font du bien au corps, au cœur, pardon, aux artères, qui stimulent plus de 400 muscles et qui permet aussi une grande ouverture de la cage thoracique en créant de courtes contractions et des spasmes qui vont masser l'abdomen et aussi tous les organes comme le foie, l'estomac, le pancréas, ce qui facilite la digestion. Pour le poumon, c'est très bien aussi, pour tous les muscles du visage, des jambes, et en fait, pour tous ces bienfaits, les médecins recommandent de rire 15 minutes par jour. 3 minutes de rire intense correspondraient à 15 minutes de marche, et selon le docteur William Frey de l'université de Stanford, 10 minutes de rire intense seraient aussi efficaces que 30 minutes d'aviron. Alors, rien de tel pour, en deux mots, guérir.
Merci beaucoup Sabah Ramani. On est désolé pour ces petits problèmes de connexion, mais l'essentiel c'est d'avoir tout entendu. On peut réécouter, on peut également retrouver de nombreux articles sur les pratiques et solutions écologiques et sociales dans les colonnes du magazine Kaizen et puis sur le site kaizen-magazine.fr. Mais il me reste qu'à vous remercier toutes les deux, Marion et Diane, d'avoir été avec nous dans cette émission. Marion Bocahu, vous êtes la présidente de l'association Les Amis Recycleurs et on peut vous retrouver notamment en Île-de-France à la recyclerie et plus d'informations sont à retrouver sur le site larecyclerie.com. Merci Marion d'avoir été avec nous et merci également à vous Diane Skemama, cofondatrice de Dream Act et membre fondatrice du collectif qui s'appelle Green Friday. Là aussi, je vous invite grandement à vous rendre sur le site internet greenfriday.fr. Merci Diane d'avoir été avec nous. Merci
à
Pierre-Henri, Louis Martin, Philippe et Catherine qui ont permis ce matin la réalisation de cette émission. On va se retrouver demain avec des sujets qui reviennent régulièrement, qui font souvent polémique. Est-ce qu'on considère suffisamment les animaux ? Bonne question. Comment sait-on que les dauphins, les lions, les éléphants sont plus malheureux lorsqu'ils sont en captivité ? Et puis au-delà des combats qui ressemblent à des corridas entre militants, on va faire le clair hein, sur la place de l'animal dans notre société. Ce sera demain de 9h à 11h en compagnie de Madeleine Vatel avec vos témoignages dès maintenant à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Bonne journée avec RCF. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info locale.